Fernand Caballero. Clémentia. Première partie. Au poète dramatique, l'action. Au romancier, l'analyse du cœur. J. A. David. Pour bien voir, il faut avoir regardé beaucoup. A. L. de Vallon. Le style vient des idées et non des mots. Balzac. Chapitre 1. Je vous le répète, don Sylvestre, chaque maison est un petit monde, disait un soir d'été de l'année 1844 la marquise de Cortegane à son fidèle compagnon et ami, don Sylvestre Sarmiento, tandis que celui-ci dégustait une tasse d'un excellent café. Prenez-la par en haut, prenez-la par en bas, chaque maison est un monde, bien que vous ne vouliez pas en convenir. Madame, je ne dis ni oui ni non. Suivant votre louable habitude, Dieu soit béni qui vous a doué d'un caractère aussi calme et aussi froid. Comme si je n'avais pas assez de mes deux filles, voilà que Dieu m'envoie une nièce. Une nièce, la chose la plus inutile du monde. C'est une vraie perle, marquise. Oui, une perle qui est pour moi ce que fut l'autre perle pour le coq. Vous seriez capable de me soutenir que je suis trop heureuse et que je viens de gagner un terne à la loterie. Moi, je ne soutiens rien, madame. Mais vous me le donnez à entendre, ce qui revient au même. Puissiez-vous voir tomber par votre cheminée une demi-douzaine de perles de cette espèce, et nous verrons quelle mine vous ferez. Je ne suis pas riche, madame, et ce surcroît de famille me gênerait fort. Vraiment, vous croyez donc que l'argent peut tout arranger ? « Je ne crois pas cela, marquise, mais je crois que l'argent rend les charges moins lourdes. »« Ah, que ne puis-je vous repasser cette nièce que vous appelez une perle, comme si je n'avais pas déjà assez à faire avec ces deux perles qui s'appellent mes filles. Des perles, les belles perles, ma foi, que ces demoiselles. »« Que ne la laissiez-vous au couvent ?»« À 16 ans, la laisser au couvent ?» Pour que tous ces villes me jetât la pierre et criât à la tyrannie, vous avez vraiment des idées. Vous avez parfaitement raison, marquise, il était urgent de la retirer du couvent. Ah, vous m'approuvez, c'est fort heureux, il ne manquera pas de gens pour blâmer ma conduite. La marquise était une femme de 48 ans environ, mais son manque absolu de prétention et la simplicité exagérée de sa mise et de ses manières la faisaient paraître plus âgée. Veuve depuis quelques années et jouissant d'un revenu considérable, elle avait le talent de le dépenser sans trop savoir à quoi. La chose était d'autant plus étonnante que, sans être avare, la marquise n'était cependant pas prodigue, qu'elle menait un train fort modeste et que, sans avoir beaucoup d'ordre dans son ménage, il ne marchait cependant pas à la débandade. Les mêmes anomalies existaient dans son caractère. Sans être malveillante, elle contredisait sans cesse. Sans avoir un mauvais caractère, elle ne cessait de murmurer. Enfin, sans avoir un mauvais cœur, elle ne trouvait rien de bien. Il n'est pas aussi rare qu'on le croit de rencontrer de semblables natures, et souvent des défauts qui ne tiennent ni à l'esprit ni au cœur finissent par s'y développer, comme des plantes parasites, faute d'avoir été corrigées à temps. Mais le trait le plus saillant du caractère de la marquise était une inquiétude perpétuelle. Le bruit d'une gouttière en hiver, un accroc en été à la tente qui abritait la cour de la maison, l'impressionnait plus vivement, lui causait une sensation plus désagréable que n'eussent fait quelque grave équipée de son fils le marquis ou la perte d'une récolte. Quand elle n'avait pas quelque sujet réel d'inquiétude, elle s'en créait un, et non seulement elle semblait se complaire dans cette création fantastique, mais elle en voulait à ceux qui ne s'en affligeaient pas comme d'une chose réelle. La bonne dame appartenait à cette phalange de Jérémie incompris qui passent leur vie à se lamenter sur un ton qui n'appartient qu'à eux, de même que le hibou exprime ses plaintes par un cri particulier à cet oiseau des ténèbres. Ces gens-là se plaignent de tout, de leur santé, et ils se portent à merveille. De leur appétit, et ils mangent comme des ogres. De leurs insomnies, et ils dorment comme des marmottes. Ils gémissent sur le temps, sur les moustiques, sur les impôts, sur les ports de lettres, sur la mort de leurs amis, du même ton que sur le mauvais entretien des réverbères. Rien ne trouve grâce à leurs yeux, il y a toujours un « mais » qui sert de correctif aux choses, même les meilleures. Chez la marquise, ses défauts provenaient de ce que, toute sa vie, elle avait été fort gâtée. D'abord par ses parents, puis par son mari, le meilleur des hommes, un homme sans nom, comme on dit dans le peuple, puis par ses amis. Aussi, malgré une bonté bien réelle, elle n'en était pas moins une créature fort égoïste et fort insupportable. La marquise avait un frère aîné, marié à Madrid, et une sœur, veuve sans enfant, d'un riche et haut fonctionnaire d'outre-mer. Cette sœur, femme d'esprit et de tête, était l'oracle de la famille. Du côté de son mari, la marquise n'avait connu d'autres proches parents qu'un beau-frère, mort au service du roi, laissant une femme enceinte d'une fille dont la naissance coûta la vie à sa mère. Cet enfant, recueilli par le feu marquis de Cortegan et élevé dans un couvent, était cette nièce que la marquise venait de rappeler auprès d'elle, comme nous avons pu le voir dans la conversation qui précède. Nous avons également vu que la marquise avait fait mention de ses deux filles. Constantia, l'aînée, âgée de 19 ans, était d'une nature grave et concentrée, sauvage et farouche. Grande et mince à l'excès, d'une constitution nerveuse, ses traits étaient régulièrement beaux et ses grands yeux noirs auraient paru charmants si l'expression en eût été plus douce et moins dédaigneuse. Aussi, soit défaut de caractère, soit vice d'éducation, peut-être par quelque cause morale ou physique, son humeur était difficile, ses manières brusques et déplaisantes. La seconde fille, qui se nommait Allégria, avait 17 ans. C'était un gracieux assemblage du moral et du physique. Un frais arbuse, au tronc vigoureux, hérissé d'épines acérées, mais gracieusement revêtu de feuilles et de fleurs. Elle était brune, pâle et bien proportionnée dans sa petite taille, depuis son pied de cendrillon jusqu'au sommet de sa gracieuse tête. Ses magnifiques sourcils étaient d'un noir de jais et ses yeux, d'un gris cendré, prenaient en se voilant à demi sous ses longs cils quand elle souriait, une expression à la fois langoureuse et piquante. Ses adorateurs avaient coutume de dire qu'elle avait des épingles dans les yeux, et néanmoins, ce regard et ce doux sourire cachaient une âme vulgaire, un esprit borné, bien que subtil, et un cœur profondément égoïste. Défauts et qualités, tout était au grand jour chez les deux sœurs. Dans la société espagnole, comme dans toutes celles du monde, il y a du bon et du mauvais. On y voit des femmes, et Dieu merci, c'est le plus grand nombre qui, franchement bonnes et spirituelles, couronnent ses qualités par l'absence de toute prétention. Ce défaut est presque inconnu en Espagne. Non pas qu'on ne puisse y rencontrer des femmes laissant beaucoup à désirer, mais généralement, on ne trouve pas chez elles, comme chez les femmes des autres nations, cette prétention de vouloir paraître autre qu'elles ne sont réellement, telle est du moins encore la généralité des femmes espagnoles de nos jours. Peut-être ce noble orgueil et cette franchise disparaîtront-elles peu à peu avec la résille et la mentille sous l'invasion des modes et des romans français, et ce sera grand dommage. Dans leur propre intérêt, les femmes devraient se persuader que chaque minauderie leur enlève une grâce, que chaque affectation les prive d'un de leurs charmes, et que, de gracieuses fleurs naturelles que Dieu les a créées, elles passent à l'état raide et guindé de fleurs artificielles. Clémencia, nièce de la marquise, sortait à 16 ans du couvent comme un blanc papillon qui s'échappe de son enveloppe de soie. C'était une de ces créatures sur lesquelles la nature a répandu à profusion sa fraîcheur, son éclat et ses charmes. D'une taille moyenne et de forme parfaite, elle était blanche et rose comme un bébé anglais. Elle aurait pu se draper comme d'un manteau d'or de sa riche et blonde chevelure. Ses grands yeux bruns, au long regard, plein d'une majesté et d'une douceur indéfinissables, reflétait la noblesse et la pureté de son âme, et sur sa petite bouche errait ce sourire d'ange par lequel l'enfant accueille un baiser de sa mère. Comme toutes les âmes tendres, Clémencia se montrait naïvement sensible à la moindre marque de confiance. En l'observant avec soin, on s'apercevait qu'elle serait aussi impressionnable à la douleur qu'elle était expansive dans la joie. Le charme attractif de chacune des trois cousines était entièrement dissemblable. Constance attirée à cause même de l'isolement qu'elle semblait rechercher et du mystère dont elle cherchait à s'entourer. Mais elle repoussait, par sa froideur dédaigneuse, toute liaison intime. Allégria avait toute la séduction et la grâce, la coquetterie d'une femme qui sait et veut faire usage de ses moyens de plaire. À la mutinerie de l'enfant gâté, elle joignait le sel mordant de la causticité et l'insatiable despotisme de son sexe. Funeste mérite que le monde applaudit cependant, mais qui devient presque toujours fatal à celle qui le possède. Clémentia, au contraire, n'avait pour charme que le calme enchanteur de l'innocence, l'attrait irrésistible de la modestie. Aussi passait-elle inaperçue dans ce monde indifférent, au milieu duquel elle vivait, sans exciter d'autre intérêt que celui que les gens âgés éprouvent pour les enfants. Don Sylvestre Sarmiento pouvait avoir une soixantaine d'années. Il portait, au majestueux, un ventre proéminent. Son nez, recourbé en bec de perroquet, figurait noblement au milieu du visage, fortement marqué de la petite vérole et présentant beaucoup d'analogies avec une écumoire. Depuis 40 années, il vivait d'une modique pension, parfaitement suffisante à ses modestes besoins, que lui servait un frère aîné, riche propriétaire d'Osuna. Don Sylvestre était un type achevé de doux farniente. Jamais on ne lui avait connu pour rien, ni pour personne, de préférence marquée. Ni pour les belles, ni pour les chevaux, ni pour la chasse, ni pour la pêche, ni pour le jeu, ni pour les livres, ni pour l'allopathie, ni pour l'homéopathie, ni pour le théâtre, ni pour la loterie, pas même, chose inouïe en Espagne, pour les courses de taureaux. Il avait cependant une affection et une antipathie prononcées. Il aimait à jouir du soleil et il détestait les chemins de fer. Mais assez sur ce brave homme qui, dans notre récit, comme partout ailleurs, ne jouera qu'un rôle de comparse, et revenons à la marquise. « Oui, monsieur, poursuivit-elle, ce jour est un jour néfaste pour moi. Croiriez-vous bien que ma sœur m'écrit de Madrid, comme on est cervelé de fils part pour Paris, sans qu'il soit possible de le retenir, pour Paris, ce foyer de corruption ?»« Que voulez-vous, madame, c'est aujourd'hui la mode. » « La belle sotte raison. Ainsi donc, si la mode venait d'avaler du poison, il faudrait, selon vous, que mon fils en avalât. »« Oh, marquise, je n'ai pas parlé de cela. Toute règle a son exception. » »« Ajoutez à cela que mon fils Alphonse, qui sort de l'école d'artillerie, veut entrer dans la brigade montée. » »« Eh bien, madame, il me semble que vous devriez plutôt vous réjouir. » »« Plaisantez-vous, monsieur. » Et l'uniforme, et le cheval, et les dangers que mon fils peut courir. Vous ne songez à rien de cela, vous. Et pour le bouquet, ne voilà-t-il pas que cet imbécile de Rouen, cette ingrate créature, après avoir vieilli à mon service, a fourré dans sa folle tête le beau projet de se marier. Mais marquise, tout le monde se marie. N'avais-je pas raison? Je ne puis dire un mot sans être contredite. Ainsi, il vous paraît tout simple, tout naturel, que ce stupide et ingrat être me quitte pour courir après une jupe de laine. L'amour, madame. Voyez le bel avocat pour plaider en faveur de l'amour, lui qui, de sa vie, n'a su ce que c'était. Mais là n'est pas encore le pis, poursuivit la marquise, de plus en plus exaspérée. Le pis, c'est ce qui est arrivé ce matin même. « Jésus, mon Dieu, quel malheur !»« Un malheur ?» demanda Don Sylvestre. « Figurez-vous qu'un portefeuille, un Galicien envoyé par l'enfer, est venu ce matin apporter quelques pots de fleurs pour placer autour du bassin. Qu'a fait ce stupide animal? N'a-t-il pas accroché mon mercure et n'a-t-il pas brisé une aile de ses pieds ?»« Et avec cette aile, une aile du cœur de ma mère !» dit Allégria, qui, de loin, avait entendu le gémissement maternel. J'aurais préféré, poursuivit la marquise, sans faire attention à la réflexion de sa fille, que ce Caraïbe eût brisé un de mes propres bras. Jésus, marquise, vous n'y pensez pas, dit tranquillement Don Sylvestre. Mon mercure était si gentil, poursuivit en larmoyant la propriétaire. Il faisait si bon effet au milieu de ses fleurs. Mon Dieu, quel malheur! Il n'y a qu'à moi que semblable chose peut arriver. C'est vraiment dommage, il ne pourra plus voler désormais, fit observer malicieusement Allégria. À ce moment, entrait dans le salon une dame d'un certain âge, grande, grosse, à la démarche décidée et à l'air imposant. « Euphrasia !» lui cria la marquise dès qu'elle l'aperçut. « Toi qui as tout vu, toi qui sais tout, ne pourrais-tu m'indiquer un moyen de recoller l'aile de mon mercure ?»« Je connais, » répondit l'interrogé d'une voix de basse taille, « certains ouvriers borgnes, fort habiles en la matière. Si celui-là n'en vient pas à bout, personne n'y parviendra. » En place d'un raccommodeur, dit en riant Allégria, « faites plutôt venir la peur. Ne dit-on pas que la peur met des ailes aux pieds ?»« Tout bien considéré, » ajoute Dona Eufrasia, « si j'étais à ta place, je ferais tout bonnement couper l'aile qui reste. À quoi bon des ailes aux pieds de ce mercure ?»« Parfaitement pensé, » reprit Allégria. Et je ne conçois pas comment ma mère, qui n'aime que les pieds de plomb, a pu souffrir aussi longtemps des ailes aux pieds de son mercure.